9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Bien le bonjour mes amis auditeurs et auditrices, Maître Serran est ravi de vous retrouver pour 60 minutes d'émission, voire même 3600 secondes au cours desquelles vous pourrez exposer vos problèmes et je l'espère obtenir des solutions. D'ailleurs, tiens, étant de bonne humeur, je te donne déjà une solution s'il y a de l'eau dans le gaz au sein de ton couple. La logique voudrait que je te dise divorce, bordel, viens voir Maître Serran, prends la fuite, tu retrouveras le bonheur immédiat avec une demoiselle plus jeune, vieux sadique que tu es. Et en plus, te connaissant, tu iras chercher une femme au bled tout timide, toute gentille. Elles sont toutes comme ça au début, normal. En te regardant, c'est pas ta tête sans cheveux qu'elles voient, c'est le signe de l'euro. Et quand tu l'auras faite venir en France, elle finira par te mettre sur la paille. Et c'est là que tu regretteras ta première épouse. Alors, si au sein de ton couple, il y a de l'eau dans le gaz, rappelle-toi simplement les raisons qui ont fait que tu as voulu te marier avec celle que tu trouvais la plus belle, la plus douce, celle qui a été ta confidente et ta moitié. Et puis, si malgré ces bons souvenirs, tu veux toujours divorcer, eh bien, va voir Maître Serran, qu'est-ce que tu veux? On ne lutte pas contre le mektoub. Mais laissons ces considérations familiales pour évoquer l'actualité qui a marqué cette semaine, et notamment les propos plus que surprenants du président de la PH. Martin Hirsch, qui s'est quand même interrogé sur la possibilité de continuer à soigner gratuitement les non-vaccinés. Donc si t'es pas vacciné, si t'as le malheur de te retrouver en réanimation, c'est que tu l'as mérité et selon la logique de ce type, tu devras alors mettre la main à la poche. Mais attention, terrain glissant, car si on se pose aujourd'hui ce type de questions pour les non-vaccinés, on finira par se poser demain les questions suivantes. T'as un cancer des poumons à cause de la cigarette, fallait pas fumer mon pote, t'es obèse, fallait faire attention à ton alimentation, t'as une cirrhose du foie à cause de l'alcool, fallait pas boire. Ce qui signifie que dès que tu arrives à l'hôpital, avant même de t'expliquer les soins qui devront être prodigués, on te demandera ta carte bleue. Si t'as pas de sous, t'as pas de soins, c'est tout. Honte à vous, monsieur Hirsch, d'avoir simplement osé vous poser une telle question. Autre sujet de la semaine, le scandale des EHPAD. Alors, ce qui m'étonne, c'est l'étonnement des gens. Bah alors, les gars, ça se saurait si les vieux étaient épanouis au sein des EHPAD, hein, qu'on devrait d'ailleurs peut-être simplement rebaptiser les mouroirs. Cette société française me désole. Il ne fait manifestement pas bon de vieillir dans ce pays ou de tomber malade. Mais sortons de l'actualité franco-française pour évoquer l'actualité internationale. La situation en Ukraine, les velléités expansionnistes de monsieur Poutine. Un article m'a fait beaucoup sourire, pour ne pas dire rire. Article intitulé « La France a-t-elle les moyens d'une guerre contre la Russie ?» Pas la peine de disserter longtemps, hein. La réponse est définitivement non. La Russie, c'est pas le Mali. Et il est écrit « Macron montre les muscles ». Le président de la République déclare « En cas d'agression russe, la riposte sera là et le coût sera très élevé ». Doit-on rappeler que la dernière fois qu'un président français s'est entretenu avec Poutine, c'était Sarkozy, que le type est sorti de cet entretien en sueur et en titubant, qui a déjà entendu dire qu'un moustique français pouvait tuer un dinosaure russe. Allez, sur ces considérations géopolitiques, je vous invite à appeler le 01 53 48 3000 pour poser vos questions. Émission sous le contrôle de notre Ruskov à nous, monsieur Philippe Robichon. À vous, maestro.
Maître Serran, alors vous vous êtes raclé la gorge juste avant l'antenne, ça s'est entendu, Maître Serran.
Ah, carrément.
En fait, vous n'avez pas la voix fluide et comme ça
Pour me mettre en condition.
Bon. Maître Serran, alors il y a beaucoup de questions au standard. la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, c'était votre anniversaire de mariage. Maître Serran, et les auditeurs se demandent si Madame Serran a été traitée avec les honneurs que vous lui devez.
Alors d'abord, Madame Serran est toujours traitée avec les honneurs. J'ai pas besoin d'un anniversaire de mariage pour dire à mon épouse que je l'aime.
D'accord, bon. Voilà.
Donc ça, c'est fait.
Alors après, l'hypo, ça s'est passé comment votre soirée hypo?
Non,
parce que vous avez mis des petits plats dans les grands, il faut le dire.
Sincèrement, ça s'est bien passé.
Entrée, plat, dessert.
Ouais, c'était sympa. Mm-hmm. Ouais, c'était sympa, ouais. C'était agréable.
T'as mangé quoi?
Et ça fait du bien. Un kebab. un kebab. Bon,
en deuxième partie de soirée.
En deuxième partie de soirée. Parce que
Maître Serran est le seul peut-être que vous connaissez qui va manger au restaurant, peut-être dans un grand restaurant. Et qui après va faire un kebab quand même.
Ah ouais, non, mais
c'est important ça. Il faut faire un kebab.
Non, mais on va être clair, dans les grands restaurants, en vérité, on mange rien. C'est juste beau, c'est sympa, c'est agréable. Les types sont là à te lécher l'arrêt du fiacre, mais c'est tout. Sinon, tu vas pas dans les grands restaurants pour bien manger. Enfin, ça se saurait.
Attendez, du coup,
voilà, vous en perdez
non, mais
votre stylo.
Non, mais non, bah, c'est, quand c'est, vous prononcez c'est des expressions, il faut me dire bip avant.
Ouais, c'est, alors bip, l'arrêt du fiacre.
Ouais.
Voilà. Mais sinon, tu vois, il n'y a pas mieux comme dire à l'autre, là, tu t'en mets plein la panse, tu prends un kebab et puis tu rentres chez toi et tu vas naître.
Et est-ce que Madame Serran a été raccompagnée chez elle ou est-ce que elle est venue manger le kebab avec vous?
Non, 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 non. Madame Serran a été raccompagnée chez elle.
Ah ouais, c'est ça.
Non, après, c'est en solitaire.
Il y a presque soirée chicha, c'était ça.
Bah, vous me connaissez bien.
Kebab chicha.
Oui, oui, après, effectivement, d'accord. J'étais dans le cinquième et j'ai été fumé tranquillement.
Bon, d'accord. Est-ce que vous avez eu un petit cadeau pour votre anniversaire?
Oh, bah oui, mais ça, on est dans le domaine de l'intime suprême.
C'est pas drôle.
Non.
Bon, voilà, ça s'est passé comme ça.
Ça s'est bien passé, c'est l'essentiel.
Alors, et vous aviez pris une babysitter pour garder les enfants? Comment ça se passe?
Les enfants sont grands. Quand
même. Pas tous.
Le plus petit de mes enfants a 8 ans, donc...
Vous le laissez tout seul, comme ça?
Bah, j'ai une fille qui a 26 ans, j'ai des gars...
Ah, qui est encore chez vous?
Ah bah, bien sûr. Ah, tu rigoles ou quoi?
26 ans, faudrait peut-être penser à la mariée, 26 ans, là.
Mais ça me tue. Mais hein? Ça me tue rien que d'y penser. Voilà, juste là, on est en train d'en parler.
Ouais.
J'ai chaud à la moustache. Ouais, c'est un truc de fou. Mais on est juste en train d'en parler, hein, comme ça, tranquillement.
Mais elle a 26 ans, elle peut mettre ses rames.
Et je pourrais me transformer en Hulk. Donc, ouais, et donc démolir les studios. C'est pas ça que vous voulez, quand même.
D'accord, ok.
Ouais,
c'est gentil.
Bon, je vais.
Gentil.
Et on va faire retomber la pression.
Bon, d'accord. Donc, tout était bien, l'enfant a été gardé. Maître Serran a été nourri et Madame Serran a eu un cadeau. Bien, alors on va parler d'un de vos grands classiques, hein, que vous ressortez régulièrement, mais ça fait partie de vos... Hein, c'est comme un peu Charles Aznavour, les 40 chansons c'est de Charles Aznavour, ça fait partie de vos grands succès. C'est ce qu'on appelle l'OQTF. Alors, Kim, c'est presque ça, mais il a oublié le F de français. Hein. C'est
l'obligation de quitter le territoire
français.
Français. Alors, c'est vrai qu'on en parle régulièrement, mais... Vous voyez, il faut savoir que je fais essentiellement du droit des étrangers, donc on est très sollicité par des personnes donc qui se voient notifiées, comme on dit, en tout cas qui reçoivent des OQTF. Donc c'est un sujet qui mérite d'être évoqué parce que c'est assez surprenant, mais même si on en parle souvent, les personnes qui reçoivent une OQTF, c'est un coup de gourdin sur la tête. C'est-à-dire que pour ces personnes-là, c'est quand même la fin d'un espoir après un parcours qui parfois a duré sur le territoire français X années. C'est-à-dire, on n'est pas en train simplement de parler d'une personne qui est sur le territoire français depuis un an, deux ans. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui sont là depuis 5 ou 10 ans et qui reçoivent une OQTF. Vous imaginez bien que l'OQTF, donc concrètement, si vous l'appliquez, ça veut dire, vous allez retourner au pays, quelqu'un qui a passé X années sur le territoire français, qui a fait une partie de sa vie, une grande partie de sa vie, puisqu'on parle aussi de personnes qui ont travaillé, des personnes qui parfois se sont mariées, des personnes qui ont parfois des enfants qui sont eux-mêmes scolarisés. Vous imaginez bien que leur dire, tout ça est terminé, les valises, et puis vous retournez au pays. Donc c'est parfois un traumatisme.
Bien, on connaît tous autour de nous quand même, Maître Serran, beaucoup de gens qui ont reçu des OQTF et qui sont toujours là. Hein.
Mais bien sûr, mais la difficulté, c'est quoi?
C'est combien repartent vraiment,
concrètement,
la vérité?
Non, mais sincèrement, concrètement, une fois que vous avez, comme dit, reçu cette claque, vous comprenez bien que la police va pas venir vous chercher. Vous voyez, ce pays, il est ce qu'il est, mais on va pas envoyer les forces de l'ordre pour vous récupérer. Ce qui se passe, c'est que si demain, après-demain, vous faites l'objet d'un contrôle, et à ce moment-là, les policiers se rendent compte qu'effectivement, vous n'êtes plus autorisé à rester sur le territoire français, on peut, s'il y a de la place, c'est terrible de dire ça comme ça, vous pouvez vous retrouver dans un centre de rétention, donc c'est là où on met les étrangers en situation irrégulière. Mais là, pareil, c'est-à-dire qu'on vous place dans un centre de rétention le temps de passer auprès d'un magistrat qui s'appelle le juge des libertés et de la détention, et c'est ce magistrat-là qui peut décider deux choses. Donc, alors, soit annuler cette mesure, alors pour des raisons de forme, ou alors pour des raisons un peu plus profondes, en disant que monsieur est marié avec une personne de nationalité française et autres, mais il peut décider de prolonger votre maintien au centre de rétention, et donc une expulsion à la clé. Mais concrètement, là encore, vous avez raison quand vous dites que les OQTF Et d'ailleurs, c'est invoqué par des types comme Zemmour, en tout cas, et comme Marine Le Pen, en disant qu'il y a beaucoup d'OQTF et il y en a très peu qui concrètement sont appliqués ou applicables, pour la simple et bonne raison que pour être exécuté, comme on dit, il faut un laissez-passer de l'autorité consulaire du pays concerné. C'est-à-dire que si je suis algérien et on me demande de quitter le territoire français, si pour une raison lambda, les autorités consulaires refusent de me remettre un laissez-passer, je ne peux pas prendre l'intéressé et le mettre dans un avion.
Alors, si vous avez décidé d'aborder ce sujet ce matin, c'est pour parler des délais de contestation. Et là, attention, il y a urgence. Si j'ai bien compris, d'abord, il faut savoir pourquoi on fait l'objet d'une OQTF. Parce qu'en fonction de l'objet, les délais sont pas les mêmes.
Alors, les délais sont pas les mêmes, c'est ça qu'il faut savoir, parce que le délai, on va dire, classique en la matière, c'est 30 jours.
C'est pour contester.
Alors, pour contester, c'est en règle générale le délai habituel, et tout en sachant que si le dernier jour tombe un jour férié, ça part à partir du lendemain, si ça tombe un samedi, ça part à partir du lundi.
Donc c'est jour ouvrable.
Voilà. Et bon. Donc c'est en règle générale 30 jours, c'est assez classique. Alors c'est assez classique, pour autant, vous avez parfois des personnes qui viennent vous voir, entre guillemets, borderline, c'est-à-dire qu'on vient vous voir...
Le 28e jour.
Voilà, donc ouais. Il faut faire attention à ça. Alors... depuis maintenant quelques temps, les recours se font via un portail particulier entre les cabinets d'avocats et les tribunaux. Donc, vous pouvez le faire le même jour, mais il arrive parfois que ça plante. Donc, il faut pas attendre, voilà, le 28e jour pour aller voir l'avocat. Vous avez un délai qui est beaucoup plus court et même ultra court. C'est un délai de 48 heures. Ce délai de 48 heures, à la différence...
Chrono.
Voilà, c'est exactement ça. C'est 48 heures chrono, parce que si ça tombe un jour férié, ça compte. Si ça tombe un samedi, un dimanche, ça compte. Et 48 heures, encore une fois, si vous avez le malheur de vous voir notifier cette décision un week-end pour essayer de joindre un avocat, c'est pas évident. Et passer ce délai, c'est terminé. Ça signifie qu'on considère que vous ne souhaitez pas contester la décision. Et donc, si vous ne souhaitez pas contester la décision, on considère qu'a priori, vous décidez de partir. Faut faire attention à ce délai qui est quand même assez terrible, parce que même si vous allez consulter un avocat, le temps de consulter l'avocat, le temps de préparer le dossier, le temps éventuellement d'obtenir des attestations des uns et des autres, 48 heures, c'est très très court.
Mais alors là, ça concerne des cas un peu nombreux, des droits d'asile.
Voilà, ce sont des cas qui sont assez particuliers. Ça concerne notamment le plus souvent les personnes qui ont sollicité l'asile politique et qui ont été déboutées de cette demande d'asile. Ça concerne aussi les personnes qui sont interpellées pour des infractions autres que simplement le fait de ne pas avoir de papier. Alors, je dis n'importe quoi, mais si vous êtes pris dans une bagarre, si vous êtes pris dans un vol et qu'en plus de cette infraction, vous n'avez pas de papier, évidemment, les autorités préfectorales considèrent que vous présentez un danger pour l'ordre public. Et à partir de là, donc, vous allez relever de ce timing extrêmement court. À partir du moment où... quelle que soit l'option, que ce soit les 30 jours, que ce soit les 48 heures, il faut savoir qu'à partir du moment où vous avez saisi le tribunal administratif, et c'est ça qui est important, c'est suspensif. C'est-à-dire que je ne peux pas, moi, autorité française, vous mettre dans un avion tant que le tribunal n'a pas rendu la décision. Donc, en règle générale, le tribunal administratif met, on va dire, quand il va très très vite, entre 8 et 12 mois pour rendre une décision.
D'accord.
Bon, ça vous laisse, entre guillemets, le temps de respirer, mais c'est terrible parce que... alors, c'est suspensif, sauf que psychologiquement, le premier concerné a l'impression que je vais rester 8 mois ou 12 mois de plus, donc a priori, je vais pouvoir réunir des éléments complémentaires pour. Et il se trouve parfois qu'on reçoit un coup de gourdin sur la tête et vous avez le tribunal administratif qui confirme la décision du préfet. Et à la différence du recours devant le tribunal administratif, lorsque vous saisissez, c'est-à-dire si vous n'êtes pas content de cette décision du tribunal administratif, vous pouvez saisir la cour administrative d'appel, et là, c'est pas suspensif. Ça signifie que si pour une raison lambda, vous faites l'objet d'une interpellation, théoriquement, on pourrait décider de vous expulser en attendant la décision de la cour d'appel. Ce qui arrive parfois aussi lorsque vous refusez d'être expulsé, c'est-à-dire que vous êtes interpellé, vous avez l'autorisation du consulat du pays concerné pour dire écoutez, vous pouvez expulser notre ressortissant. On a parfois des personnes qui refusent d'embarquer. Alors refuser d'embarquer, c'est un délit. Ça signifie qu'on trouve parfois devant le tribunal correctionnel donc des personnes qui ayant refusé d'embarquer vont comparaître pour ce refus d'embarquement.
Mais je crois que les commandants de bord ne peuvent pas accepter des gens qui refusent d'embarquer. Non,
tout va dépendre du comportement de l'intéressé. Ouais. C'est-à-dire que si effectivement...
Si vous êtes agité,
ouais. On considère qu'il y a un danger pour les passagers, effectivement, on a des commandants de bord qui disent c'est hors de question, et puis nous, on ne l'accepte pas. Mais le procureur de la République peut décider de vous poursuivre pour un refus d'embarquement. Donc, vous vous retrouvez devant le tribunal correctionnel, vous avez toujours sur votre tête cette obligation de quitter le territoire, et puis on a parfois, malheureusement, des personnes qui prennent des peines de prison, et donc qui vont faire un petit séjour en prison, et dès qu'elles sortent de prison... rebelote, c'est-à-dire vous vous retrouvez à nouveau directement devant un avion.
Qui c'est qui paye le billet d'avion ?
C'est la France. La France est généreuse à ce point, c'est-à-dire que si...
Donc en ce moment, sur Air Algérie, ça coûte un bras. Hein.
Ah, mais comme dirait l'autre, la France se donne les moyens si en plus le type dit j'accepte de partir, croyez-moi qu'il n'y a pas de difficulté. Alors dans un premier temps, c'est-à-dire que lorsqu'on vous notifie l'obligation de quitter le territoire, c'est pour vous, c'est-à-dire qu'on vous invite à faire le nécessaire dans ce timing pour retourner au pays, mais si vous vous maintenez malgré cette obligation de quitter le territoire, vous êtes interpellé dans les conditions qu'on a évoquées précédemment, c'est la France qui vous offre entre guillemets le billet.
L'avocat est obligatoire ?
Alors l'avocat n'est pas obligatoire, d'accord. On est en matière de droit administratif. Alors c'est un peu hypocrite comme situation, encore une fois, vous voulez divorcer, l'avocat est obligatoire, et parfois vous avez des divorces qui sont très simples. Le droit des étrangers est un droit qui reste quand même assez complexe, donc l'avocat n'est pas obligatoire, mais selon la formule consacrée, fortement conseillé.
Vous avez des questions juridiques à poser à Maître Serran, vous serez avec nous dans un instant, 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant.
Voilà, de retour avec Maître Serran au 01 53 48 3000. Maître Serran, c'est Iptissem qui vous appelle de la Provence. Iptissem, comment ça va ?
Allô ?
Iptissem, bienvenue.
Oui, bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Bonjour, j'aimerais...
J'aime beaucoup votre prénom.
Alors, je m'appelle Iptissem.
Bah, Iptissem, ça veut dire le sourire.
Sourire, c'est ça.
C'est ça.
Oui, c'est ça.
Le sourire.
Le sourire.
Ah ouais. Ben, je me permets de vous appeler, s'il vous plaît, parce que j'ai une question, mais pas pour le quitter le territoire. Moi, en fait, avec mon mari, on est en France depuis... mon mari, ça fait 20 ans, peut-être, même plus. Et moi, ça fait 19 ans. En fait, on était commerçants jusqu'au moment du Covid. On était obligés de mettre clé sur la porte. Hein. Et là, on voulait faire une demande de nationalité. Le problème, c'est que mon mari, depuis le mois de mai, il est juste en CDD. Est-ce qu'avec une CDD, on peut obtenir la nationalité ou pas ? C'est la seule chose qui nous bloque pour l'instant. On a toujours travaillé, on a des enfants, une bonne situation, mais la seule chose, c'est est-ce qu'avec un CDD, on peut faire une demande de nationalité ou pas ?
Alors c'est une question qui est légitime et qui est intéressante. Il y a une règle en fait. Les autorités françaises doivent pas seulement prendre en considération le dernier CDD, c'est-à-dire en se disant écoutez c'est un CDD en soi ce serait peut-être un peu trop fragile. Ils doivent prendre en considération votre parcours. C'est-à-dire que si vous n'avez pas eu de difficultés avant cette période Covid et que vous avez travaillé régulièrement, vous avez déclaré vos impôts, vous n'avez pas eu de problème avec l'administration fiscale et autres, c'est une totalité qui est prise en considération et pas le fait de dire il y a entre guillemets une situation particulière ou un accident de la vie. Et ben puisque c'est un CDD, donc maintenant on va refuser parce que la situation est trop fragile. Donc vous pouvez légitimement faire ce type de demande, je le redis, les autorités françaises doivent prendre en considération l'intégralité de votre parcours. Et vous êtes en France depuis suffisamment longtemps.
Bon. On n'a jamais eu de problème, on a toujours payé nos impôts. Quand on était commerçant, on a On a, j'ai eu la, vous savez, le fiche de la, des impôts que j'ai zéro. On a aucun problème. Vraiment, pas de problème.
C'est ça qui est important, voilà, c'est-à-dire qu'on va voir si sur un plan administratif, entre guillemets, c'est carré, si vous n'êtes pas connu des services de police. À partir de là, je le redis, il ne faut pas vous focaliser pas que sur cette dernière période et cette histoire de CDD. C'est vraiment toute la situation qui est prise en considération. Et puis, il n'y a rien qui vous interdit aussi d'expliquer pourquoi vous êtes en CDD. Vous savez, c'est une situation qui a touché beaucoup, beaucoup de personnes et qui a fragilisé beaucoup de sociétés. Donc, il y a, entre guillemets, une explication réelle et sérieuse que vous pouvez aussi apporter.
Donc non, le fait d'être en CDD n'est pas...
Non, alors c'est assez particulier, c'est compte tenu de la situation, compte tenu de la situation de ce que nous dit madame. Mais quelqu'un qui appellerait pour dire j'ai un CDD, je commence à bosser, j'ai un CDD, est-ce que je peux demander la nationalité française parce que je suis en France depuis très longtemps, a priori, ça sert à rien de faire la demande, la réponse sera négative. Mais là, le parcours de madame et la situation de madame est quand même c'est assez particulier, donc c'est tout à fait jouable.
On est commerçant depuis 2008.
Ouais. Et après, dans quel domaine?
Avec le Covid, on était obligé de fermer parce que on n'arrivait plus.
C'était un commerce de quelle nature?
C'était dans la restauration.
D'accord. Oui, les restaurateurs ont, pardon pour l'expression,
morflé,
voilà, méchamment. Donc, c'est-à-dire que, vous voyez, il y a une vraie explication. Donc à partir du moment où il y a une vraie explication, à partir du moment où vous êtes de bonne foi, donc vous pouvez légitimement indiquer que vous êtes en CDD parce que ceci, parce que cela. Donc non, c'est pas une inquiétude. Encore une fois, la réponse ne vaut que pour vous. Et quelqu'un qui dirait j'ai un CDD, je veux solliciter la nationalité française, je lui aurais répondu c'est trop fragile. Pour vous, c'est jouable.
D'accord, ça va. D'accord. C'était ma question. Je vous remercie.
Merci de l'avoir posée, Bissem.
Et passez une très très bonne journée.
Merci, Bissem. Vous aussi. Alors, on a Soraya qui est avec nous au 01 53 48 3000. Soraya, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour, Soraya.
Bonjour, Soraya.
Ça va et vous?
Bien.
Moi, j'ai une question concernant ma nièce.
Bon, elle le sait?
Ma nièce, elle est de... on a un père français et deux mères algériennes. On est venu en France en 2014. Et maintenant, pour ma nièce, pour mes enfants, on a fait toutes les nationalités pour nos enfants. Et ma sœur, sa fille, elle a 23 ans. On a fait les démarches pour la nationalité, c'est à Aubervilliers, tribunal d'Aubervilliers. Alors, ils ont dit comme quoi... ils ont rejeté le dossier. Ils nous ont orientés vers un avocat gratuitement. On a fait les démarches avec l'avocat à Paris. Et finalement, l'avocate, elle m'a dit, madame, votre dossier est au tribunal. Et d'après le Covid-19 et tout, elle m'a dit, vous renouvelez votre dossier, sinon vous allez attendre.
Alors,
ça fait 3 ans.
Pour bien comprendre, si vous me parlez du tribunal Aubervilliers, vous avez demandé peut-être un certificat de nationalité française?
Non, nationalité française. Son grand-père est français.
J'entends bien. Donc, est-ce que la demande, c'est une demande de certificat de nationalité française?
Oui, c'est ça.
Voilà. Donc, a priori, vous avez reçu un refus. Et ce refus se conteste devant le tribunal judiciaire. Enfin, l'ancien tribunal de grande instance. Et
Oui. Ils ont dit... parce que ses deux sœurs et frères, ils l'ont eu.
D'accord.
Mais
voilà.
Je ne sais pas pourquoi ils ont rejeté le dossier.
Donc c'est ce qui fait que votre avocat a contesté devant le tribunal.
Oui, mais elle m'a dit, madame, moi j'ai déposé le dossier, mais d'après le Covid-19, il y a eu du retard, il y a beaucoup de dossiers, alors il faut mieux renouveler votre dossier. Est-ce que c'est possible de renouveler le dossier ou pas?
La difficulté, madame, c'est que... alors, qu'il y ait du retard dont acte, c'est une réalité. C'est vrai que avant le Covid-19, les tribunaux n'allaient pas très vite, mais pas parce qu'ils sont feignants, mais parce que il y a pas suffisamment de magistrats. Maintenant, la difficulté qui va se poser est la suivante. Si pour une raison X ou Y, l'avocat vous dit, écoutez, ça risque d'être long, on laisse tomber, alors elle peut se retirer, on appelle ça un désistement. Vous pouvez toujours, en tout cas votre nièce peut toujours formuler une nouvelle demande de certificat de nationalité française, mais la réponse de ce service va être simple. C'est-à-dire qu'on va vous dire, mais attendez, on vous a déjà dit non. vous aviez oui. qu'à continuer votre procédure devant le tribunal. Donc, ça n'a même pas de sens de vous demander de reformuler une demande de certificat de nationalité française. Donc, oui. selon moi, même si, madame, c'est long devant le tribunal judiciaire, il vaut mieux laisser le dossier et continuer devant, devant ce tribunal et auprès de ces magistrats. Parce que vous aurez, c'est terrible, mais vous aurez la même réponse. On va vous dire, on vous a déjà dit non.
Non, monsieur, c'est pas question qu'il nous a dit non. Elle m'a dit, madame, au tribunal d'Aubervilliers, ils ont dit qu'il manque des documents. Quand on a fait
madame,
retard,
alors,
pour
juste,
avoir les documents...
Mais madame, juste pour être clair, si on vous dit qu'il manque des documents, on complète. On va pas devant un tribunal pour dire je vais compléter. Est-ce que c'est ça? C'est-à-dire, est-ce que le service vous dit, écoutez, pour étudier le dossier, il nous faut des documents complémentaires?
Oui.
Bon, alors est-ce que ces documents complémentaires ont été versés?
Ont été versés, oui, mais ils ont dit que c'est en retard. Vous êtes en retard. Il nous a rejeté le dossier.
Voilà, donc il y a une décision de refus. Enfin, juste pour essayer de comprendre ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que vous avez reçu une décision du service de la nationalité qui dit on refuse de vous donner la nationalité pour telle ou telle raison?
Non, on n'a pas reçu de décision.
Alors qu'est-ce que vous contestez devant un tribunal?
Ils nous ont orienté vers l'avocate. Et cette avocate, elle a tout pris, les documents qui manquaient. Elle nous a dit on va faire le nécessaire. Alors après, c'était le Covid-19.
J'entends
on est
bien,
presque
madame,
trois, et
juste,
ça.
Voilà, moi ce que je veux savoir, c'est que si un service vous demande de compléter un dossier, par définition, il faut le compléter. Et une fois que le dossier est complété, le service, il dit oui ou il dit non. Mais là, vous me dites, on a un avocat, on a été devant le tribunal. Vous avez été devant le tribunal, pourquoi alors?
Non, on n'était pas devant le tribunal. Elle n'a rien fait, l'avocate. Elle nous a dit, elle a le droit, mais vous attendez. D'après l'épidémie, elle m'a dit, madame, maintenant il y a l'épidémie, votre dossier est au tribunal, descendez.
Bah, voilà, mais madame, moi ce que je veux comprendre, c'est qu'au moment où on se parle, est-ce que le service de la nationalité vous a envoyé un petit courrier pour dire, on refuse pour telle ou telle raison? Parce que quand c'est ça, on vous dit, vous pouvez contester... faire un recours devant le ministre et faire un recours devant le tribunal. Est-ce que vous avez reçu un document de cette nature?
Non, d'accord. On n'a rien reçu.
Bon, bah donc, en fait, je suis en train de chanter depuis tout à l'heure inutilement, donc ce qui veut dire que...
Je vous ai mal compris.
Non, mais c'est moi aussi.
Non, et puis d'ailleurs, on ne se lasse pas de votre voix.
Ah bah c'est...
c'est
pour ça, en fait.
Voilà, c'est ça, Maître Serran, le comique de répétition.
Bon, bah voilà. Donc, dans ce cas-là, madame, je crois comprendre que, puisqu'il n'y a pas de décision définitive, vous êtes toujours devant ce service de la nationalité, il suffit, entre guillemets, de compléter. Mais vous savez, vous n'avez même pas besoin, à la limite, d'avocats ou ces histoires de Covid. Devant un tribunal, je peux comprendre. Mais devant le service de la nationalité, si en plus on vous a dit, écoutez, rajoutez telle ou telle pièce, il suffit de rajouter tel ou tel document.
Oui, mais quand j'ai appelé l'avocate, elle m'a dit, madame, c'est possible de renouveler le dossier? Parce que maintenant, je ne sais pas votre dossier. Il y a beaucoup de dossiers et tout. Vous allez attendre plus que... Vous avez déjà attendu, vous allez attendre plus.
Ce qu'il faudrait faire, alors, madame, que ce soit vous, que ce soit votre avocat, peut-être qu'elle contacte tout simplement le service en disant est-ce que le dossier est toujours d'actualité, mais il n'y a aucune raison qu'il ne le soit pas. Si le service dit qu'il faudrait réactualiser les pièces, peut-être des pièces plus récentes, ou compléter, faudra compléter ou réactualiser. Mais si le service dit c'est OK, et puis il y a un petit temps pour qu'on puisse vous répondre, c'est peut-être pas utile. Donc, avant de entre guillemets, qu'elle fasse en sorte de vous angoisser, il faudrait peut-être que les renseignements soient pris.
Je ne sais pas, il y a quelque chose qui cloche, je ne sais pas. C'est presque 5 ans.
Ça me semble un peu long. Alors, je vous disais qu'une demande de certificat de nationalité française, ça peut être long. Quand je dis long, c'est-à-dire 2 ans est un délai, entre guillemets, raisonnable. 5 ans, madame, ce serait bien de se poser la question de savoir si le dossier est là-bas.
Ça commence à devenir déraisonnable, oui.
Oui, 5 ans, ça fait beaucoup trop. En 5 ans, on a même, si le service de nationalité dit non, un tribunal vous a déjà rendu une décision.
Que vous pouvez contester. Vous pouvez appeler Maître Serran, de toute façon, Soraya, hors antenne. Maître Serran, s'il vous plaît, donnez votre numéro de téléphone.
Alors, joignable au 06 62 58 59 64, 06 62 58 59 64.
Et si vous avez des questions à poser à Maître Serran, vous composez le numéro du standard de Beurre FM, 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Alors, Maître Serran, du suivi par rapport à un appel de la semaine dernière qui concernait des remboursements et des prises en charge de la sécurité sociale française pour un retraité donc, qui vivait en Algérie, mais qui touchait une retraite de la France et qui avait l'habitude de se faire prendre en charge quand il venait faire notamment des dialyses en France. Vous avez mené votre enquête, Maître Serran.
Alors, j'ai eu la demoiselle au téléphone pas plus tard qu'hier.
Sa fille, hein.
Sa fille, pas plus tard qu'hier. Mmh. La difficulté, c'est que... alors, elle évoquait un texte, hein, mais c'est un texte qui, entre guillemets, présente peu d'intérêt, qui explique justement la procédure à suivre. Mais... dans la décision qui lui refuse une prise en charge à hauteur de 100%, ils font référence à une convention franco-algérienne. J'ai vérifié la nature de la convention, voir s'il y avait éventuellement des modifications ou autres.
C'est savoir si ça a été modifié entre-temps.
Il n'y a pas eu de modification. Maintenant, il est possible aussi que la Sécu étant ultra blindée avec ces histoires de Covid et autres, que la réponse qui a été apportée soit une réponse un peu légère. J'ai invité cette femme quand même à se rapprocher, simplement peut-être à demander davantage d'explications, et puis en fonction de la nature de sa réponse, j'ai invité à me contacter, voir si il est nécessaire ou pas demain éventuellement de contester, mais en tout cas pas de à ma connaissance pas de changement dans la convention franco-algérienne concernant ses prises en charge à hauteur de 100%.
Alors quand on a un litige avec la sécurité sociale, c'est quoi, c'est du droit de la sécurité sociale?
Oui, c'est du droit de la sécurité sociale, donc
spécialité quand même pointue.
Ah, c'est assez pointu, ouais, hein, ouais. C'est-à-dire que voilà, il y a des domaines qui sont quel que soit le domaine, que ce soit la sécu ou autre, vous avez des domaines parfois qui sont assez pointus, et c'est aussi entre guillemets de l'honneur de l'avocat de dire, écoutez, dans tel ou tel domaine, j'ai pas les compétences pour, et de vous orienter éventuellement vers un confrère dont ce serait la spécialité. Mais ça vaut pour tous les domaines du droit.
Ça vaut le coup, parce qu'en ce moment, en plus, il y a beaucoup de questions qui reviennent sur les remboursements des tests PCR ou antigéniques qui sont faits à l'étranger. Et c'est parce que ça chiffre vite dans certains pays, hein, même si vous revenez du Maghreb. C'est 35, 40 ou 50 euros, hein, le test. Alors, si vous êtes une famille de 5-6 personnes, ça fait beaucoup d'argent. Alors, nous avons Hamza qui est avec nous. Hamza, bonjour et bienvenue.
Ah oui, bonjour.
Bienvenue,
bonjour,
Hamza.
Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Philippe. Bonjour, maître.
Bonjour, Hamza.
Je suis bien en antenne, hein.
Oui, et le monde entier, alors là je vais vous dire un secret, Hamza, je ne sais pas si ça va vous intimider ou pas, le monde entier vous écoute.
Ouais, c'est vrai.
Ah bah d'accord, très bien.
Donc
très
ça
bien,
peut vous intimider.
Merci. Alors non, pas du tout. Alors moi j'ai juste deux questions si vous voulez bien. Alors la première, donc ça concerne le sujet d'aujourd'hui, donc l'UQTF. D'après mes informations à moi, il y a quelques années, l'UQTF dure une année, on va dire. Ça veut dire qu'à la date anniversaire, il n'y a plus d'UQTF.
Ah, alors, ça, c'est intéressant ce que vous dites.
J'ai vu le truc qui circulait, moi. J'ai vu l'information
qui
circulait.
Oui, mais le truc, c'est que l'obligation de quitter le territoire devient, on dit, caduque au bout d'un an. Mais ça veut dire quoi? Souvent, on l'interprète comment? En disant, écoutez, j'ai plus d'UQTF, donc je peux saisir les autorités administratives. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que, concrètement, moi, autorité française, si je vous arrête et que vous avez une OQTF de plus d'un an, je ne peux pas vous contraindre à quitter le territoire. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis le policier, je vous arrête, je vous emmène au commissariat, j'envoie un mail à la préfecture qui immédiatement va m'envoyer une seconde OQTF, et cette fois-ci vous aurez que 48 heures pour partir. Donc la caducité de l'OQTF, ça ne veut pas dire qu'elle disparaît de votre dossier, ça veut dire que je ne peux pas, mon autorité française, l'exécuter. Ouais, mais elle est toujours au-dessus de votre tête. Donc, et si vous aviez un délai de 30 jours pour quitter le territoire français, et que, au bout d'un an, vous êtes toujours sur le territoire français, la prochaine fois, si moi, autorité française, je vous arrête, je vous accorderai que 48 heures pour contester.
D'accord.
Voilà, hein, donc, mais ça, je l'entends très, très souvent. Souvent, les clients viennent en disant, j'ai une OQTF, mais il y a plus d'un an, donc, bah non, ça a toujours son importance. C'est toujours dans votre dossier auprès des services préfectoraux.
D'accord, très bien. Merci, maître. Sinon, ma deuxième question, en fait, ça concerne le délai. Vous voyez, quand on veut introduire une demande de régularisation d'une manière générale à la préfecture, je veux dire, c'est quoi le délai que ça pourrait prendre, la réponse, en fait? Est-ce qu'ils ont une obligation de donner une réponse?
Ah, d'accord. La réponse de la préfecture quand vous déposez un dossier.
Exactement. Donc, est-ce qu'il y a un délai? Est-ce qu'ils sont obligés de respecter un délai?
Alors, il y a un délai. C'est-à-dire que quand on applique les délais de manière très stricte en droit administratif, les autorités préfectorales ont un délai de 4 mois pour apporter une réponse. Alors, compte tenu du nombre de dossiers, compte tenu parfois de la mauvaise foi de la préfecture, c'est-à-dire qu'on vous répond pas dans ces délais, mais il faut savoir que à compter du moment où vous avez... Il faut toujours envoyer en recommandé AR hein, quand vous envoyez un courrier. À compter de la réception, vous comptez 4 mois. Si au bout des 4 mois, vous n'avez pas reçu de réponse, on considère que c'est un refus implicite. Ça veut dire que je ne suis pas obligé de vous répondre, à vous de calculer le délai, et donc au bout de 4 mois, je vous ai pas répondu, ça veut dire je ne veux pas vous régulariser. Et dans ce cas-là, vous n'aurez qu'un délai de 2 mois, donc à partir des 4 mois qui se terminent, vous avez un délai de 2 mois pour contester ce refus devant un tribunal administratif. Et on appelle ça un refus implicite.
Et s'ils vous répondent pas?
Qui ça?
Ben la préfecture. Ouais.
Bah c'est ça le truc, c'est-à-dire que je saisis la préfecture.
Ouais.
Au bout de 4 mois, ils me répondent pas.
Ah oui, donc voilà. Oui, c'est parce qu'ils vous ont pas répondu.
Non, d'accord. Ils me répondent pas. S'ils me répondent pas, on considère que c'est un refus implicite. Et donc, j'ai 2 mois à partir de l'expiration du délai de 4 mois, pour saisir le tribunal administratif et contester ce refus implicite. Parce que souvent, vous avez des personnes qui, parfois, alors saisissent la préfecture et au bout d'un an, vous disent « je n'ai pas eu de réponse, faut que j'attende encore ». Il n'y a plus rien à attendre. Quand c'est comme ça, vous êtes obligé de ressaisir la préfecture pour faire repartir le délai.
Parce qu'ils sont hors délai.
Et ils sont hors délai.
D'accord. 4 mois, et après on a...
4 mois, pas de réponse, j'ai 2 mois pour saisir le tribunal.
D'accord, merci beaucoup, merci pour vos réponses.
Merci à vous pour votre appel.
Bonne journée, au revoir.
Merci à vous aussi.
Merci, Hamza. Tant est Hamza dépité, hein. Hop, la réponse.
Il a dû laisser passer un délai. Hamza.
Vous croyez, c'est ça?
Mais Hamza, vous pouvez recommencer. Il peut toujours
redéposer.
Il peut toujours ressaisir la préfecture.
Autant de fois qu'on veut.
Voilà, pour faire repartir les délais.
Samira est avec nous au 01 53 48 3000. Bienvenue, Samira.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Maître Serran,
bonjour Samira.
Philippe.
Alors chaque fois qu'une Samira appelle, je pose l'éternelle question. Samira, êtes-vous ma cousine Samira?
Pas du tout.
Non. Hein.
Bien.
Bon, écoutez, voilà, alors c'était... Donc si ma cousine Samira m'écoute, je l'embrasse.
Oh, très bien.
Alors on vous écoute Samira.
Merci beaucoup. En fait, moi j'ai un petit souci avec une salle de sport. Je me suis inscrite avant le premier confinement. Et après, j'ai abandonné comme ça parce qu'il y avait le confinement, le premier, deuxième, troisième. Et en même temps, j'ai bloqué mon compte pour qu'ils ne peuvent pas...
prélever.
Absolument. Et du coup, après, récemment, j'ai reçu un appel d'un service de contentieux disant que j'ai 400 à peu près euros à régler parce que j'ai pas résilié. Et en tout cas, quand je me suis inscrite, personne ne m'avait dit qu'il faudrait résilier, ou même le contrat était très lent pour le lire, je ne pouvais pas le lire, sincèrement. Et là, pour régler ça, je n'ai pas, parce que mon salaire était même 400 dinars, 400 euros par mois à peu près. Du coup, ils m'ont donné trois solutions. Soit que je reprends avec eux pour une année, pour qu'ils m'enlèvent ces 300 euros, mais je paye quand même les honoraires du service
de contentieux. Service de recouvrement. Ouais.
Absolument. Non, c'est loin, ça n'a rien à voir avec leur
oui, mais ça, c'est, oui, non, mais ce sont des sociétés qui ne font que ça, hein, donc.
Absolument. Ils sont à Clermont-Ferrand et tout ça. Et sinon, je ramène quelqu'un d'autre de ma part et il le payera juste la moitié de l'inscription du dossier. Sinon, je suis obligée de payer. Et là, ce qui me tracasse, parce que là, je vais demander ma nationalité de française. Est-ce qu'il y aura un impact sur cette demande?
Non. Alors d'abord, pour répondre à à cette question qui semble vous titiller davantage, non, il n'y aura pas d'impact. Absolument. Donc là, il n'y a pas de difficulté, pas d'impact sur la nationalité française.
Mais alors, vous savez, je voudrais vous rappeler que la semaine dernière, alors que j'étais en train de résilier mon abonnement et que je découvrais un service merveilleux de la Poste,
c'est vrai.
Maître Serran m'a très gentiment conseillé
de bloquer et puis d'arrêter les prélèvements.
D'arrêter les prélèvements. Et je lui ai dit non, Maître Serran, je préfère résilier.
D'accord. Eh ben, moi, je vous dis, je reste là-dessus. Vous pouvez bloquer les prélèvements pour la simple et bonne raison, encore une fois, que. Alors d'abord, vous savez, s'ils étaient sûrs de leur coût, on ne vous proposerait pas 1000 options. Ramenez-nous quelqu'un, revenez. Non. Ouais. Si on est, en tout cas, si vous étiez dans cette période de Covid, il y avait quand même ce qu'on appelle un cas de force majeure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous payez et que, avec des mesures gouvernementales, il n'était pas possible à ces services-là d'arrêter les prélèvements et voire même de rembourser certaines personnes puisque vous payez pour un service qui peut pas être assuré. Donc sincèrement,
pendant les mois où on a été confiné et où on n'a pas pu aller à la gym, ils vous ont quand même prélevé ou ils ont pas proposé de reporter les échéances?
Non, les voilà. Moments de confinement, non.
Non, parce que beaucoup de salles de sport ont reporté
ils ont suspendu, oui.
Mais après, vous n'aviez pas été après?
J'ai eu la flamme et puis.
Ah ouais, non mais madame, c'est-à-dire que là c'est pas pareil, c'est-à-dire que je suis pas en train de donner des solutions parce que vous avez la flemme et voilà, vous pouvez rester chez vous avec une soupe chaude. C'est-à-dire que après c'est aussi il y a un contrat. Moi je peux comprendre dans ce cas-là si vous poursuivez, on va tout reprendre à zéro. C'est-à-dire que on est en dehors de la période de confinement.
C'est ouvert.
Voilà, c'est ouvert. Ouais. Vous êtes autorisé à y aller. Vous n'y allez pas. Il y a un contrat. Alors j'ai bien compris. Vous disiez, attendez, le contrat, je l'ai pas lu. C'est écrit en tout petit. Mais dont acte. Non, là, madame, je le redis. C'est-à-dire que la fautive, pardon pour le thème qui est pas joli, c'est vous dans l'histoire. On est en dehors des histoires de prélèvements parfois injustifiées de certaines salles de sport. Oui. Mais là, non, fallait mettre votre short et aller faire un peu de sport. Donc là, madame,
comment vous parlez à Samira, franchement?
Non, Samira, mais un short, j'imagine, ou un jogging. Voilà. Mais non, là, la difficulté, Samira, c'est que le ça plaît pas en votre faveur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où eux sont carrés, c'est voilà, c'est vous payez un service, c'est normal.
Oui. Non, mais moi, j'avais besoin d'un appareil pour mon dos, mais l'appareil toujours, il n'est pas disponible, il est toujours occupé. Donc le premier mois je l'ai payé et j'ai été que trois séances, c'est tout, et j'ai pas réclamé le reste.
Ouais, mais vous avez bien compris que ça fonctionne pas comme ça, parce que ce serait ingérable.
Alors, c'est quoi cette salle de gym, parce qu'on va envoyer Maître Serran, parce que il va négocier pour vous. Qu'à chaque fois que vous allez y aller, l'appareil sera dispo. Ouais. Moi je pense que quand même c'est une belle solution.
Absolument, pourquoi pas.
C'est quoi votre salle de gym, Samira?
C'est à Bondy Sud.
Bondy Sud.
Mais ça coûterait peut-être moins cher d'acheter un appareil que pour votre dos, non? Si vous avez besoin que d'un appareil.
Oui, j'aurais dû le faire. Ah. Oui, absolument, oui.
Bon, elle était là la semaine dernière.
Et Samira, on arrive à la fin. En tout cas, on vous fait un gros bisou.
On vous embrasse, Samira.
Mais bon, c'est vrai qu'il faut lire les petites clauses de résiliation quand on signe un contrat. Ah,
c'est impératif.
Ouais, voilà, ça y est inscrit, hein, notamment. Merci d'avoir été avec nous, Maître Serran. On vous retrouve vendredi,
avec
soirée
plaisir.
Hippo, ce soir, avec Mme Serran
Comme d'habitude.
D'accord.
Bah oui.
Très bien. Demain, c'est l'imam Abdelali Mamoun qui sera là, à partir de 10h à 11h pour l'islam au présent.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.